Deuxième partie. Liberame domine de morte et cerna dum veneris judicare seculum per ignem. Office des défunts. Vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Depuis le gouffre de cette parole, aucun homme n'a jamais pu dire ce que c'est que la pauvreté. Les saints qui l'ont épousée d'amour et qui lui ont fait beaucoup d'enfants assure qu'elle est infiniment aimable. Ceux qui ne veulent pas de cette compagne meurent quelquefois d'épouvante ou de désespoir sous son baiser, et la multitude passe de l'utérus au sépulcre, sans savoir ce qu'il faut penser de ce monstre. Quand on interroge Dieu, il répond que c'est lui qui est le pauvre, egum sum pauper. Quand on ne l'interroge pas, il étale sa magnificence. La création paraît être une fleur de la pauvreté infinie, et le chef-d'œuvre suprême de celui qu'on nomme le Tout-Puissant a été de se faire crucifier comme un voleur dans l'ignominie absolue. Les anges se taisent et les démons tremblants s'arrachent la langue pour ne pas parler. Les seuls idiots de ce dernier siècle ont entrepris d'élucider le mystère. En attendant que l'abîme les engloutisse, la pauvreté se promène tranquillement avec son masque et son crible. Comme elles lui conviennent, les paroles de l'Évangile selon saint Jean. Elle était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue dans son domaine, et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens, oui, sans doute. L'humanité ne lui appartient-elle pas? Il n'y a pas de bête aussi nue que l'homme, et ce devrait être un lieu commun d'affirmer que les riches sont de mauvais pauvres. Quand le chaos de ce monde en chute aura été débrouillé, quand les étoiles chercheront leur pain et que la fange la plus décriée sera seule admise à refléter la splendeur, quand on saura que rien n'était à sa place, et que l'espèce raisonnable ne vivait que sur des énigmes et des apparences, il se pourrait bien que les tortures d'un malheureux divulguassent la misère d'âme d'un millionnaire, qui correspondait spirituellement à ses guenilles, sur le registre mystérieux des répartitions de la solidarité universelle. « Moi, je me fous des pauvres, » dit le mandarin. « Très bien, mon joli garçon, » dit la pauvreté sous son voile, « viens donc chez moi, j'ai un bon feu et un bon lit. » Et elle le mène couché dans un charnier. Ah vraiment, ce serait à dégoûter d'être immortel s'il n'y avait pas de surprise, même avant ce qu'on est convenu d'appeler la mort, et si la pâtée des chiens de cette duchesse, revomie par eux, ne devait pas être un jour l'unique espoir de ses entrailles éternellement affamées. « Je suis ton père, Abraham, ô Lazare, mon cher enfant mort, mon petit enfant que je berce dans mon sein pour la résurrection bienheureuse. Tu le vois, ce grand chaos qui est entre nous et le cruel riche, c'est l'abîme qu'on ne peut franchir, des malentendus, des illusions, des ignorances invincibles. Nul ne sait que son propre nom, nul ne connaît sa propre figure. » Tous les visages et tous les cœurs sont obnubilés, comme le front du parricide, sous l'impénétrable tissu des combinaisons de la pénitence. On ignore pour qui on souffre, et on ignore pourquoi on est dans les délices. L'impitoyable dont tu enviais les miettes, et qui implore maintenant la goutte d'eau du bout de ton doigt, ne pouvait apercevoir son indigence que dans l'illumination des flammes de son tourment. Mais il a fallu que je te prisse des mains des anges pour que ta richesse, à toi, te fût révélée dans le miroir éternel de cette face de feu. Les délices permanentes sur lesquelles avait compté ce maudit ne cesseront pas en effet, et ta misère non plus n'aura pas de fin. Seulement l'ordre ayant été rétabli, vous avez changé de place, car il y eut entre vous deux une affinité si cachée, si parfaitement inconnue, qu'il n'y avait que l'Esprit-Saint, visiteur des eaux des morts, qui eut le pouvoir de la faire éclater ainsi dans l'interminable confrontation. Les riches ont horreur de la pauvreté parce qu'ils ont le pressentiment obscur du négoce piaculaire impliqué par sa présence. Elle les épouvante comme le visage morne d'un créancier qui ne connaît pas le pardon. Il leur semble, et ce n'est pas sans raison, que la misère effroyable qu'ils dissimulent au fond d'eux-mêmes pourrait bien rompre d'un coup ces liens d'or et ces enveloppes d'iniquité, et accourir tout en larmes au-devant de celle qui fut la compagne élue du Fils de Dieu. En même temps, un instinct venu d'en bas les avertit de la contagion. Ces exécrables devinent que la pauvreté, c'est la face même du Christ, la face conspuée qui met en fuite le prince du monde, et que, devant elle, il n'y a pas moyen de manger le cœur des misérables au son des flûtes ou des hautbois. Ils sentent que son voisinage est dangereux, que les lampes fument à son approche, que les flambeaux prennent des airs de cierges funèbres et que tout plaisir succombe. C'est la contagion des tristesses divines. Pour employer un lieu commun dont la profondeur déconcerte, les pauvres portent malheur, en le même sens que le roi des pauvres a déclaré qu'il était venu porter le glaive. Une tribulation imminente et certainement épouvantable est acquise à l'homme de joie dont un pauvre a touché le vêtement et qu'il a regardé les yeux dans les yeux. C'est pourquoi il y a tant de murailles dans le monde, depuis la biblique tour qui devait cogner le ciel, tour si fameuse que le Seigneur descendit pour la voir de près et qu'on bâtissait sans doute afin d'écarter éternellement les anges nus et sans domicile qui erraient déjà sur la terre. 5 ans plus tard, Clotilde est maintenant la femme de Léopold. Gacugnol est mort, Marchenoir est mort, un petit enfant est mort, et de quelles horribles morts. En attendant son mari, son cher mari, qu'elle se reproche d'aimer autant que Dieu, elle lit la vie des saints. Sa préférence est pour ceux qui ont versé leur sang, qui ont enduré d'horribles tortures. Ces histoires de martyrs la comblent de force et de douceur, surtout lorsqu'elle a la chance de tomber sur quelques-uns de ces candides fragments de leurs actes sincères, tels que la relation de Sainte Perpétue ou la fameuse lettre des églises de Vienne et de Lyon, miraculeusement préservée de la sucrerie démoniaque des abréviateurs. Alors, elle se sent appuyée à une colonne et peut regarder en arrière. La voici justement qui ferme son livre, aveuglée de larmes et le visage tout en pleurs. Oh, elle n'a pas changé. C'est toujours le ciel d'automne d'autrefois, avec un commencement de crépuscule, un ciel de pluie où le soleil meurt. Mais elle se ressemble davantage. À force de souffrir, elle a tellement conquis son identité que, parfois, dans la rue, les tout-petits, qui sont nés depuis peu, lui tendent les bras, ayant l'air de la reconnaître. Que de choses en ce court espace de 5 années. Il y a une minute affreuse qui pèsera sur son cœur, jusqu'au moment où lui seront dites les sacrées paroles de l'agonie qui délivrent l'âme du poids des minutes et du poids des heures. Profit chiere anima Christiana de hoc mundo. Sans cesse elle revoit le pauvre Gacugnol mourant, frappé sauvagement par le compagnon abominable de sa mère. De l'église de Grenelle, où elle attendait son retour, un pressentiment l'avait tout à coup jetée dans la rue, comme si l'ange d'Abacuc l'eût empoignée par les cheveux. Arrivée en quelques instants à la maison de l'assassin, devant laquelle déjà grondait une multitude, son bienfaiteur lui était apparu, porté par 2 hommes, un couteau en pleine poitrine, avec la même figure que dans son rêve. On n'avait pas encore osé arracher cette arme, très profondément engoncée. Tout ce qui avait suivi lui semblait un autre rêve. Les 4 jours d'agonie du blessé, sa mort, son enterrement. Ensuite, le procès de Chapuis et de sa femelle, où elle avait dû comparaître en qualité de témoin, sans pouvoir presque articuler un seul mot, tant elle était paralysée de voir sa mère plus vivante et plus audacieusement cafarde que jamais. Elle se souvenait d'avoir entendu, aussi longtemps qu'avaient duré les débats, comme un tintement de cloche à son oreille, cette parole de la victime « Votre mère n'est pas plus mourante que moi ». Le pochard sanglant n'avait échappé à la guillotine que par l'équité de quelques jurés marchands de vin, qui avaient admis la circonstance atténuante de l'alcoolisme, invoquée par un avocat d'origine polonaise, et on l'avait envoyé se dessouler perpétuellement au bagne. Quant à la papelarde, elle consommait son martyre dans le pénombre claustral d'une prison cellulaire, non loin de l'altière et poétique séchoir, trahie par des lettres trouvées dans les guenilles de cette bandite, et convaincue d'avoir machiné contre sa pensionnaire le guet-apens où Gacougnol avait succombé. L'instruction avait révélé la manigance diabolique et à peu près invraisemblable d'un viol que le balancier Vergalant se serait chargé de conditionner lui-même avec une virtuosité incomparable. Aucun autre calcul apparent. On voulait seulement noyer la malheureuse fille dans le plus profond désespoir, la tuer d'horreur, en comptant bien qu'elle n'oserait jamais dénoncer sa mère. Pendant 3 semaines, les journaux avaient fait couler ce fleuve d'ordures. Clotilde, broyée de chagrin, s'était vue forcée de subir, en manière d'extra, la flétrissante commisération des chroniqueurs, qui larmoyèrent, aux rives du Nil de l'information parisienne, sur les malheurs de la délicieuse maîtresse de Pélopidas Gacougnol, enfin qualifiée d'illustre. Ce pauvre nom ridicule, synonyme pour elle seule de la miséricorde infinie, avait été profané à cause d'elle par ces chiens immondes. Mais, comme il fallait que tout fût exceptionnel dans les aventures d'une pauvresse vouée aux flammes, il y avait eu encore autre chose. Environ 2 heures avant sa mort, Gacougnol, s'éveillant d'un long évanouissement pendant lequel on lui avait administré l'extrême onction, s'était tout de suite informé d'elle. Léopold et Marchenoir, qui ne quittaient pas sa chambre, lui ayant répondu que le juge d'instruction l'avait fait appeler en hâte. « Pauvre fille, avait-il dit, j'aurais aimé sa figure de sainte au dernier moment. Mais je ne veux pas la laisser sans ressources. Donnez-moi du papier, chers amis, je vais écrire un bout de testament. » Il avait en effet trouvé la force d'écrire pendant quelques minutes, puis laissant tout tomber, indifférent désormais aux choses terrestres, il s'était mis à heurter doucement à la porte pâle. Le testament avait été reconnu indéchiffrable. Un frère, jusqu'alors inconnu, magistrat vertueux venu de Toulouse pour conduire le deuil, avait tout raflé, sans que les exhortations pathétiques des 2 amis, qui l'instruisirent éloquemment des dernières volontés du mort, eussent eu le pouvoir de lui faire lâcher 1 centime. Ce drame, dont toutes les péripéties ont été d'une amertume excessive, Clotilde le retrouve au fond de son cœur, installé comme dans un antre, chaque fois qu'elle veut y redescendre. Rien n'a pu tuer ce dragon, pas même les autres douleurs. Quelquefois, c'est à croire qu'il les dévore, tant il est vivant. De temps en temps, son bienfaiteur passe dans ses rêves tels qu'elle l'a vu la veille du crime. C'est toujours le même regard de compassion douloureuse, mais sans parole, et le spectre s'évanouit aussitôt. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de prier pour l'âme en peine. Mais, jusqu'à son dernier jour, elle s'accusera d'avoir causé la mort de cet homme qui l'avait sauvée du désespoir. Et pourquoi cela? Mon Dieu, pourquoi? Parce qu'elle avait peur, tout simplement. Parce qu'elle était une lâche, une impardonnable lâche. Elle se lève, jette son livre sur une table, regarde autour d'elle avec détresse. Elle aperçoit le grand vieux Christ en bois peint, relique du XIVe siècle que lui a donné son mari. C'est là seulement qu'elle sera bien. Elle met son front sur les pieds durs de cette image et dit en pleurant « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Il est écrit dans votre livre que vous avez eu peur en votre agonie, lorsque votre âme était triste jusqu'à la mort, et que vous avez eu peur jusqu'à suer le sang. vous ne pouviez pas descendre plus bas. Il fallait que les lâches eux-mêmes fussent rachetés, et vous vous êtes laissés tomber jusque-là. Ô Fils de Dieu, qui avez eu peur dans les ténèbres, je vous supplie de me pardonner. Je ne suis pas une rebelle. Vous m'avez pris mon enfant, mon doux petit garçon aux yeux bleus, et je vous ai offert ma désolation. Et j'ai dit, comme au sacrifice de la messe, que cela était juste et raisonnable, équitable et salutaire. Vous savez que je n'ai point d'estime pour moi-même, que je me regarde vraiment comme une petite chose faible et triste. Guérissez-moi, fortifiez-moi, éloignez de moi, si c'est votre volonté, le calice de cette amertume. Cette eau, mon sauveur, cette eau vive que vous promîtes à la Samaritaine prostituée, donnez-la-moi pour que je sois du nombre de ceux qui vivront toujours, pour que je la boive, pour que je m'y baigne, pour que je m'y lave, pour que je sois un peu moins indigne du noble époux que vous m'avez choisi et que ma tristesse décourage. » Léopold vient d'entrer et Clotilde s'est précipitée dans ses bras. « Mon cher ami, mon bien-aimé, ne t'afflige pas de me voir pleurer. Ce sont des larmes de tendresse. J'ai tant de chagrin d'être pour toi une mauvaise femme. Je demandais à Dieu de me rendre meilleure. Comme tu es pâle, mon Léopold, comme tu paraisses abattu. » On pourrait croire en effet qu'elle tient dans ses bras un fantôme. Ce n'est plus le flibustier, le condottiere et terrible, le fascinateur à la bouche close qui faisait trembler. Tout cela est loin. Quelque chose de très puissant a dompté ce fauve. C'est la douleur, sans doute, une certaine douleur. Seulement il a fallu que ce breuvage, que ce philtre, lui fût présenté par l'enchanteresse miséricordieuse dont il est devenu captif. Au contraire de Clotilde, il a beaucoup vieilli, bien qu'il ait à peine 40 ans. Sa tête est devenue grise, et ses yeux, épuisés par ses travaux d'enluminure, ont perdu cette fixité inquiétante qui les faisait ressembler à ceux d'un tigre. La face a gardé toute son énergie, mais s'est démasquée de cette raideur cruelle, tétanique, suggérant l'idée d'une âme garrottée par le désespoir. Rassure-toi, ma Clotilde, grâce à Dieu et à tes prières, je n'ai pas de nouveau sujet de peine, dit-il d'une voix que ses anciens amis ne reconnaîtraient pas, tant elle est douce et que brise par moments l'émoi de son cœur lorsqu'il prononce le nom de sa femme. Il la serre sur sa poitrine comme un naufragé serre une épave que le brasillement de la voie lactée rendrait lumineuse. Et un peu après, « En revenant de mes courses, j'ai été m'agenouiller à Saint-Pierre, puis j'ai visité nos tombes, et je sens que nous ne serons pas abandonnés, » ajoute-t-il, regardant le pauvre gîte où ils vivent, on ne sait comment, depuis des mois, car ils sont très malheureux. Leur mariage avait été un poème bizarre et mélancolique. Dès le lendemain de la mort de son protecteur, Clotilde était retombée dans la misère. Un psychologue fameux, enfant de pion par droit de naissance et d'une jeunesse éternellement désarmante, a décidé souverainement que les douleurs des pauvres ne sauraient entrer en comparaison avec les douleurs des riches, dont l'âme est plus fine, et qui, par conséquent, souffrent beaucoup plus. L'importance de cette appréciation de valet de chambre est indiscutable. Il saute aux yeux que l'âme grossière d'un homme sans le sou qui vient de perdre sa femme est amplement réconfortée, tranchant le mot, providentiellement secourue, par la nécessité de chercher, sans perdre une heure, un expédient pour les funérailles. Il n'est pas moins évident qu'une mère sans finesse est vigoureusement consolée par la certitude qu'elle ne pourra pas donner un linceul à son enfant mort, après avoir eu l'encouragement si efficace d'assister, en crevant de faim, aux diverses phases d'une maladie que des soins coûteux eussent enrayée. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini, et il est malheureusement trop certain que les subtiles banquières ou les dogares quintessenciers du haut négoce qui s'emplissent de gigots d'agneaux et s'infiltrent de précieux vins, en lisant les analyses de Paul Bourget, n'ont pas la ressource de cet éperon. Clotilde, qui ne savait pas un mot de psychologie et qu'une longue pratique de la pauvreté parfaite aurait dû blinder contre l'affliction du cœur, exclusivement dévolue à l'élégance, eut cependant l'inconcevable guignon de souffrir autant que si elle avait possédé plusieurs meutes et plusieurs châteaux. Il y eut même, dans son cas, cette anomalie monstrueuse que les affres du dénuement, loin d'atténuer son chagrin, l'aggravèrent d'une manière atroce. Bravement, elle entreprit de gagner sa vie, mais la pauvre fille en était peu capable. Son nom d'ailleurs ne la recommandait pas. Elle était devenue une héroïne de cour d'assises, proie désignée au sadisme ambiant. Puis, elle avait tellement sur sa figure la plaie de sa vie, le carnage de ses entrailles, la transfixion de son sein. Nulle assistance possible ou acceptable du côté de ses amis. Vers le même temps, Marche Noire se débattait plus que jamais lui-même entre les griffes du sphinx aux mamelles de bronze et au ventre creux, dont il ne put jamais déchiffrer l'énigme et qui a fini par le dévorer. Quant à Léopold, une pudeur qu'elle n'expliquait pas s'opposait à ce qu'elle voulut tenir de lui un secours quelconque, malgré les plus pressantes et les plus respectueuses supplications. Ce fut au point qu'elle se déroba complètement et que les deux fidèles perdirent sa trace plus d'un mois. Mois terrible qu'elle croyait avoir été le plus douloureux de son existence. Lasse de démarches toujours vaines chez des bourgeois uniformément crapuleux qui n'avaient à lui offrir que des outrages, elle passait les journées dans les églises ou sur la tombe de l'infortuné Gacougnol. Le front appuyé sur la table tumulaire et l'inondant de ses larmes, elle se disait, avec une profondeur sentimentale qui n'aurait pas manqué de paraître superstitieuse, qu'il était bien effrayant que le premier être qu'il avait aimé, comme un chrétien, eût été condamné à payer de sa vie cette charité, et qu'un autre sans doute aurait le même sort. Telle était la raison qui l'avait déterminée à fuir Léopold. Elle sentait confusément qu'il y a des créatures humaines, surtout dans le camp des pauvres, autour desquelles s'accumulent et se condensent des forces néfastes. On ignore par quel insondable décret de justice commutative, de même qu'il y a des arbres sur qui tombe invariablement la foudre. Elle était peut-être une de ces créatures, digne d'amour ou de haine, c'est Dieu qui le sait, et elle devinait aisément que le dur corsaire drapé de flammes qu'elle avait vu dans son rêve n'était que trop disposé à prendre contact. Un jour enfin, le 14 juillet 1880, elle vint s'asseoir épuisée sur un banc du Luxembourg. Elle avait donné la veille ses derniers sous à un logeur de très bas étage et ne pouvait plus acheter le morceau de pain qu'elle mangeait ordinairement dans la rue. À peine vêtue, n'ayant gardé que deux ou trois toilettes offertes par l'ami défunt que le strict nécessaire. Sans gîte maintenant et sans pâture, elle se voyait désormais livrée à Dieu seul, comme une chrétienne à un lion. Elle venait d'entendre à Saint-Sulpice une de ces messes basses qui s'expédièrent fébrilement, ce jour-là, dans toutes les églises paroissiales, impatientes de fermer leurs portes à triple tour. Il était environ 10 heures du matin. Le jardin était à peu près désert et le ciel d'une douceur merveilleuse. Le soleil faisait semblant de se diluer, de s'extravaser dans un bleu mitraillé d'or que noyait à l'horizon une lactescence d'opale. Les puissances de l'air paraissaient en complicité avec la canaille dont c'était le grand jubilé. Le solstice tempérait ses feux, pour que 600 000 goujats se soulassent confortablement au milieu des rues transformées en cabarets. La rose des vents bouclait son pistil, ne laissant flotter qu'un léger souffle pour l'ondulation des oriflammes et des étendards. Les nuages et le tonnerre étaient refoulés pour chasser au-delà des monts lointains, chez les peuples sans liberté, pour que les bombes et les pétards de l'anniversaire des assassins puissent être oui exclusivement sur le territoire de la République. Cette fête vraiment nationale, comme l'imbécilité et l'avilissement de la France, n'a rien qui l'égale dans l'histoire de la sottise des hommes et ne sera certainement jamais surpassée par aucun délire. Les boucans annuels et lamentables qui ont suivi ce premier anniversaire ne peuvent en donner l'idée. Il leur manque la bénédiction d'en bas. Elles ne sont plus activées, actionnées par cette force étrangère à l'homme que Dieu, quelquefois, déchaîne pour un peu de temps sur une nation et qui pourrait s'appeler l'enthousiasme de l'ignominie. Qu'on se rappelle cette hystérie, cette frénésie sans camisole qui dura 8 jours, cette folie furieuse d'illumination, de drapeaux, jusque dans les mansardes où s'accroupissait la famine, ces pères et ces mères faisant agenouiller leurs enfants devant le buste plâtreux d'une salope en bonnet phrygien qu'on trouvait partout, et l'odieuse tyrannie de cette racaille que ne menaçait aucune force répressive. Dans les autres fêtes publiques, à la réception d'un empereur, par exemple, et lorsque les républicains les plus fiers s'écrasent aux roues du potentat, il est trop facile d'observer que chacun ment effrontément, et tant qu'il peut, aux autres et à lui-même. Ici, on se trouva en présence de la plus effroyable candeur universelle. En glorifiant par des apothéoses, jusqu'alors inouïes, la plus malpropre des victoires, cette multitude fraîchement vaincue se persuada en vérité qu'elle accomplissait quelque chose de grand, et les rares protestations furent si aphones, si indistinctes, si submergées par le déluge, qu'il n'y eut, sans doute, que le grand archange penché sur son glaive, protecteur, quand même, de la parricide enfant des rois, qui les put entendre. Clotilde regardait ces choses comme une bête mourante regardait un halo autour de la lune. Dans l'espèce de torpeur que lui procurait l'exténuation de son corps et de son âme, elle se prit à rêver d'une allégresse religieuse qui se serait tout à coup précipitée en torrent sur la ville immense. Ses pavois, ses fleurs, ses feuillages, ses arcs de triomphe, ses cataractes de feu qui s'allumeraient au crépuscule, tout cela c'était pour Marie. Sans doute, à ce moment de l'année ecclésiastique, il n'y avait aucune solennité liturgique de premier ordre. N'importe, la France entière, ce matin, s'était réveillée toute sainte, et pour la première fois, se souvenant que, jadis, elle avait été donnée authentiquement, royalement, à la souveraine des cieux, par quelqu'un qui en avait le pouvoir, il avait fallu qu'à l'instant même, elle fît éclater et rugir son Alléluia de 200 ans. Alors, éperdu, n'ayant sous la main que les simulacres de la révolte, les simulacres de la bêtise et les simulacres de l'idolâtrie, elle les avait jetés aux pieds de la Vierge consolatrice, comme l'Antiquité chrétienne renversait aux pieds de Jésus les autels des dieux. L'Église bénirait tout cela, quand elle pourrait et comme elle pourrait, mais la vieille mère a le pas pesant, et l'amour grondait si fort dans les cœurs qu'il n'y avait pas moyen de l'attendre, car ce jour, de 24 heures seulement, ne reviendrait plus jamais, ce jour sans pareil où tout un peuple mort et puant sortait du tombeau. Une ombre passa sur ce songe, et la vagabonde releva la tête. Léopold était devant elle.